votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi sur Radio Campus, la radio libre qui émet sur 106,6 MHz et vous écoutez avec raison Angle d'attaque. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Sont présents d'aujourd'hui pour animer l'émission Florent, René dit René la science, Monique et Christian. Monique est de passage, on en reparlera tout à l'heure. L'opportunité du thème d'aujourd'hui nous vient de Transpol qui nous propose une nouvelle grille tarifaire depuis le 1er janvier. Nouvelle grille dont la première caractéristique aura été de supprimer la gratuité pour quelques catégories, peu d'ailleurs, de voyageurs. La vraie droite a repris le pouvoir comme dans la région. Eh bien nous, aujourd'hui, nous allons essayer de vous convaincre que la gratuité, c'est pas seulement possible, mais c'est utile à la société. C'est déjà ça, et c'est pas rien. Il y a en France plusieurs expériences existantes ou en cours de transport public gratuit, et à Attac, on s'y intéresse de près. À Attac, en nous posant la question de la gratuité dans les transports, on a un peu retrouvé la gratuité que nous revendiquions dans le collectif Eau pour les premiers mètres cubes gratuits, n'est-ce pas René ?
Oui, oui.
La gratuité dans les transports, c'est bien. La communauté urbaine a certainement les moyens de faire cette fleur à ses habitants, mais est-ce que la gratuité ne peut être qu'une question de moyens ? La gratuité pour nous, en effet, serait une avancée importante mais pas suffisante. La gratuité, selon nous, devrait avoir comme premier effet d'impliquer les usagers dans la gestion. À Attac, nous continuons de militer pour que les citoyens, les usagers, prennent leurs affaires en main. Les transports publics, avec des centaines de milliers de voyageurs, ne peut pas être seulement une question de transport gérée par des spécialistes. La délégation de services publics à une entreprise privée, entendez aux actionnaires, ne serait telle qu'elle que nous satisfaire, a fortiori quand la délégation est offerte par la communauté urbaine où siègent des élus de second degré, éloignés du coup de leurs électeurs. Lisez ou relisez La politique confisquée de Fabien Desage et David Guéranger que nous avons eu le plaisir d'accueillir il y a un peu plus d'un an. La gratuité est une affaire qui réclame l'intervention des usagers dans sa gestion, voilà ce que nous disons. La gratuité est une affaire politique au bon sens du terme, peut-être même une affaire de bien commun, on y réfléchit. Aujourd'hui, on va leur demander ce qu'ils en pensent de la gratuité à celles et ceux qui jugent qu'il ne faut pas payer les transports publics. Bonjour la mutuelle des fraudeurs.
Bonjour.
Bonjour Rémi. Bonjour Sandrine. Bonjour Monique également.
Bonjour.
Avec Monique, on parlera également de la coordination pour la gratuité dans les transports à Lille, coordination dans laquelle il y a évidemment Attac Métropole.
Oui, alors bonjour la mutuelle, on a deux représentants de cette mutuelle ici et on va bien sûr leur laisser la parole, c'est eux qui doivent, il y a tellement de choses à dire qu'on va essayer de leur laisser un grand temps de parole. D'abord, d'où vient cette idée de créer une mutuelle des fraudeurs et à quoi sert-elle ?
C'est un peu compliqué, c'était plein de raisons. La mutuelle a été créée il y a 6 ans, en septembre 2009, par un groupe issu surtout de la lutte pour la liberté de circulation des sans-papiers. Ça a commencé avec l'arrestation de deux camarades sans-papiers en lien avec les agents de Transpol. Et on s'est dit, là, il y avait une sorte de rage qui éclatait contre Transpol, ces contrôleurs qui arrêtent les gens, qui regardent les identités, qui en plus font payer des tarifs exorbitants. On a dit, là, c'est le moment de s'organiser. Et en même temps, est tombé un appel national disant clairement, il faut multiplier les mutuelles des fraudeurs dans toute la France et dans le monde entier. Alors cet appel venait de Paris, parce que ça a commencé surtout là-bas, avec les intermittents et les précaires dans les années 2000, où ils ont lutté pour la gratuité des transports pour les plus pauvres. Donc nous, on a dit, c'est le moment, on va agir là-dessus, on va se renseigner, et on a appelé à des réunions, et ça a donné naissance à la mutuelle des fraudeurs.
Alors comment ça fonctionne ?
Ça fonctionne sur deux points. Déjà, c'est un point entraide, quelque chose d'assez pratique. C'est une caisse commune qui permet à ceux qui ne peuvent pas payer leurs amendes ou à ceux qui subissent des très grosses amendes de pouvoir être remboursé.
Et un autre point plus politique qui consiste à clairement dire aux personnes que la gratuité c'est possible, qu'elle est financée à 75% par les subventions publiques et que c'est que le but clairement de Transpol et de la boîte qui utilise Keolis, c'est de privatiser un secteur qui ne l'est pas encore.
Mais alors aujourd'hui, la mutuelle des fraudeurs, les mutuelles des fraudeurs sont inquiétées. D'ailleurs, vous-même, vous allez nous parler du procès que vous avez subi. Mais en quoi ça serait illégal d'aider les plus précaires à payer des amendes? C'est un peu ce qu'on fait quand on prend une assurance. Donc, pourquoi cette mutuelle est aujourd'hui dans le collimateur de notre gouvernement avec la loi Savary?
Oui, justement, en fait, c'est Sandrine qui était vraiment en question par rapport à... qu'on ne comprenait pas du tout, que notre avocate ne comprenait pas du tout, d'ailleurs, dans le procès, c'est que la fraude n'est ni un délit, ni un crime. Donc déjà, par rapport à la loi, ça ne tient pas vraiment. Et comme tu l'as bien dit, oui, tout à fait, en fait, nous, donc la mutuelle paye des amendes. Donc on ne se trouve pas dans le délit d'habitude. Donc, si on explique ce que c'est le délit d'habitude, c'est donc de ne pas payer 10 amendes dans le cours d'une année. Et ça, c'est réprimé par 6 mois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et là, avec la nouvelle proposition de loi, ils veulent encore baisser ça à 5 amendes. Mmh. Et donc encore plus réprimé. Par rapport à le délit d'habitude. Donc,
l'avocat de la mutuelle. Que dit l'avocat de la mutuelle là-dessus?
Mais il a plaidé et en fait, vous pourrez peut-être expliquer un peu ce qui s'est passé en 2014 et comment vous êtes retrouvé au tribunal et comment ça se termine.
Surtout au tribunal.
Comment vous
C'est simple. Un des membres de la mutuelle des fraudeurs s'est fait arrêter en allant au travail par la brigade financière. Ensuite, c'est suivi une perquisition du domicile. Et la saisie des ordinateurs et de tout l'argent liquide qu'ils ont trouvé là-bas. Donc ça a été c'était un délit de presse, donc incitation à commettre des crimes et délits par voie de presse ou tout autre moyen de communication. Donc c'est une vieille loi des années 1870. C'était pour calmer les militants révolutionnaires qui appelaient à manifester et à prendre. C'était une autre époque, quoi. Donc ils ont ressorti ces lois-là. C'était le bloc qui leur posait problème, le bloc de la mutuelle des fraudeurs qui annonçait les réunions, qui mettait les tracts, où il y avait la charte de la mutuelle des fraudeurs. C'est Transpol qui a porté plainte sur ce bloc-là pour incitation à commettre des crimes ou des délits. Voilà. Donc ça posait plein de questions juridiques parce que la fraude, c'est ni un crime ou un délit.
Mais vous avez été relaxé.
On n'a pas été relaxé. C'est ça qui.
Oui. Ah. C'est ça qui est un peu aussi, c'est que, oui, tout à fait, c'est que, donc, la loi de la presse est très spécifique, du coup, il faut faire, toutes les procédures dans les 3 mois, et donc, nous, ils n'ont pas suivi non plus, en fait, le délai de 3 mois, donc, on peut dire que pour nous, c'était pas le...
C'était une prescription, voilà. Ça faisait tomber l'enquête, quoi. Ça faisait tout tomber.
D'accord.
Donc voilà. Ils nous rendent soi-disant les ordinateurs qu'on n'a toujours pas, que les gens n'ont pas toujours pas récupéré, et l'argent a été saisi et les tracts de la mutuelle ont été saisis.
Et que va faire la mutuelle maintenant alors?
Elle fait appel pour récupérer tous les gains.
D'accord.
Oui, justement, cet argent liquide, rien ne prouvait en fait qu'il appartenait à la mutuelle. De quel droit se sont-ils permis de prendre...
Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont saisi la trésorerie de la mutuelle, donc les archives de la trésorerie de la mutuelle qui étaient loin de l'argent qui était saisi. C'est 850 euros qui ont été saisis chez les gens. Donc de l'argent de côté, quoi, et ils ont saisi ça. Comme ça.
Est-ce qu'ils leur ont au moins restitué depuis?
Le juge a dit clairement qu'ils avaient gardé. Donc c'est pour ça que la mutuelle fait appel là-dessus.
D'accord.
Donc on est sur les mutuelles, il y en a d'autres en France. Est-ce que vous travaillez ensemble, vous connaissez? Et comment elles se créent? Est-ce qu'elles sont différentes? Ou est-ce qu'elles ont toutes un peu le même état d'esprit?
On peut dire que dans le fonctionnement, à peu près, c'est à peu près le même état d'esprit. Après, c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont beaucoup plus, privées. ils vont pas donc distribuer des tracts ou ce sera plutôt l'organisation entre par exemple des militants ou entre des amis voilà, alors que la mutuelle de fraudeurs de Lille a toujours été ouverte. On a beaucoup tracté, il y avait aussi ses blogs, voilà. Donc on peut dire que c'est ça. Après, oui, on communique de temps en temps, mais voilà, c'est ça la différence.
Elles sont majoritairement à Paris.
Oui, on a à Paris.
Il y en a une à Rennes, à Bordeaux et à Lille, les connues.
Ils sont inquiétés également ?
Non, il n'y a que nous qui avons été inquiétés.
Ah, quand même.
Alors, peut-être revenir aussi sur la loi Savary, qui est grave. Et qu'est-ce qu'elle implique ? Moi, je vais peut-être redire, rien que le titre, l'appellation de cette loi. C'est une loi relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs. Ça vous...
Oui.
Ça vous dit quoi ?
Alors là, on touche encore une fois, est-ce qu'on reproche depuis des mois à la Transpol aussi cet incroyable rapprochement entre la fraude et l'insécurité, et là en plus le terrorisme. Oui. Donc là, on voit très très loin, alors qu'il n'y a aucun lien, à mon avis, à faire entre tout ça. Et donc avec c'est une proposition de loi, mais elle vient d'être quand même adoptée.
Elle est discutée en ce moment.
Elle est discutée.
Entre les deux chambres.
Voilà. Et en fait, ce que ça va donner, donc que, par exemple, c'est pas seulement par exemple à la RATP, à la SNCF, qui aurait des services de sécurité interne, mais aussi à Transpol. Donc ça veut dire en fait que donc ils vont être sous contrôle du ministère de l'Intérieur. En fait, c'est on va donner des pouvoirs
de police aux contrôleurs.
Voilà.
Ils vont pouvoir fouiller les sacs de n'importe qui. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui a pas de ticket, normalement, juste il a une amende. Là, on pourra en plus fouiller son sac, contrôler son identité, plein de choses.
C'est grave aussi pour les usagers, pour tout le monde, pour nous tous, c'est qu'ils vont pouvoir échanger des fichiers. C'est-à-dire que des organismes de sécurité sociale ou d'allocation familiale vont pouvoir être interpellés, donner des fichiers, et on va pouvoir retrouver les gens qui ne payent pas les amendes, par exemple, de cette façon-là. Ça, c'est une atteinte aux libertés quand même gravissime.
Oui.
A fortiori qu'il y a une catégorisation maintenant à la CAF en fait des voyageurs, puisque le ticket sera en fonction de revenus. René avait une question.
Oui, je voulais juste demander si le fait de recouper comme ça les fichiers est constitutionnel.
Bonne question, René, merci.
Ça, je pense, c'est à voir. Mais en tout cas, en fait, dès qu'on a, on y arrive de plus en plus. Il faut déjà savoir que la CNIL, c'est quand même elle peut donner que un avis sur le sujet. Oui. Par exemple, si on parle déjà des fichiers de Transpol, ils constituent les fichiers. On le sait, il y avait, ils sont censés les détruire, mais ils le font pas. Justement, là, il y a un an de ça.
Il y a le procès d'un fraudeur, on va dire, pour délit de fraude par habitude. Et ils ont sorti des papiers en disant, regardez, cet individu fraudait déjà il y a 2, 3 ans, 4 ans. Donc c'est le président, le juge, qui a dit, non, il y a un problème là, vous n'êtes pas censé avoir ce fichier.
Allons pas. Quand même. Et après, la LDH a porté plainte. Ouais,
voilà. Ils ont fait un communiqué.
Voilà. Après, si on parle de tous ces fichiers, on ne doit pas éviter non plus le sujet du RFID, contre laquelle la mutuelle aussi.
Ce sont les puces qui sont maintenant dans les cartes passe-passe.
C'est ça, c'est la carte passe-passe.
Et contre lesquelles beaucoup d'usagers résistent. Simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'être fichés et qu'on surveille leurs allées et venues sur les transports.
Surtout que maintenant ils viennent d'appliquer l'amende des gens qui payent leur abonnement et qui en plus doivent biper à chaque correspondance s'ils ne le font pas.
C'est légal d'ailleurs parce que l'abonnement il est payé à l'avance, qu'on l'utilise ou pas le transport.
Je sais qu'à Paris pour le pass Navigo ils ne l'ont pas appliqué, mais à Lille il y a quelques personnes qui se sont pris l'amende donc ils commencent à l'appliquer.
Ah oui.
Mais on reste sans voix quelquefois, hein, parce que c'est ce qui vous tombe sur la tête.
Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils voient qu'ils sont en déficit sur les transports par rapport à une mauvaise gestion, comme par exemple avec l'eau. Il y a une très très mauvaise gestion, des conditions de travail horribles pour les salariés de chez Transpol. Il y a énormément de communiqués qui tombent là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils relient la fraude avec l'insécurité pour récupérer l'argent sur ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Au lieu de se remettre en cause et de tout simplement la métropole changer d'opérateur de contrat, de dire bah non, ces gens-là sont incapables, on met des personnes qui sont censées le gérer mieux. Non, ils vont aller jusqu'à dire non, on va les faire payer ceux qui n'ont même pas l'argent et on va augmenter en plus les tarifs. Donc c'est vraiment un...
Il faut rappeler peut-être aussi la gestion calamiteuse de Transpol au moment du passage à carte passe-passe et le cadeau qu'ils ont fait à l'entreprise
Parkéon.
Ouais.
Parkéon. De 18 millions, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Le coût de base, c'était 23 millions.
Oui.
Donc, ce qui est déjà énorme pour une carte passe-passe. Et ensuite, c'est passé à plus de 30 millions et il y a eu encore des coûts.
Ça aussi, c'est hallucinant parce qu'on est dans un contrat de droit commercial privé. Ces 18 millions représentaient les amendes pour des retards et dysfonctionnements multiples. Et les élus de la communauté urbaine ont décidé de leur en faire cadeau.
Alors que ça fonctionne toujours pas.
Voilà, et que ça fonctionne toujours très très mal.
Pas tout à fait, puisque
300 000.
Ils ont dû payer 300 000 euros finalement, en s'engageant la main sur le cœur certainement d'améliorer le système, ce qui est quand même assez extraordinaire. On l'a fait.
Et ça va pas s'arrêter là, puisqu'il y a le projet de créer des portiques. Est-ce qu'on sait où on en est là, non?
C'est
2017, c'est ça.
2017 sur les 7 stations. Et que ça va aussi présenter un coût, je crois,
millions par portique. Oui. 1 million par portique, peut-être, quelque chose comme ça.
Oui.
C'est sûr, par rapport à la carte passe-passe, ça paraît ridicule, mais...
Oui. C'est énorme.
Mais en tout cas, ça va, comme usager, ça va nous complètement transformer le métro. Je veux dire... c'est justement, on parlait tout à l'heure de la COP21, c'est quand même... très très significatif que juste au moment où se termine cette grande messe, on va hausser les tarifs des transports en commun.
René,
je veux dire, on a du mal à comprendre leur gestion, parce que après un coût exorbitant de la mise en place là de la carte passe-passe, il faut qu'ils rajoutent plus de 2 millions, c'est ça, pour des portiques. Alors que leur utilité n'est pas foncièrement avérée.
Je pense que c'est symbolique, c'est pour dire que la chasse aux fraudeurs continue.
Oui.
C'est vraiment ça, c'est trouver un bouc émissaire. C'est-à-dire les fraudeurs, c'est le bouc émissaire pour que tous les gens qui hésitent à payer ou ne pas payer se disent non, il faut que je paye parce que là ils lâchent rien. On le voit dans les arrêts de métro, à Gare Lille-Flandre, il y a des énormes panneaux avec marqué 89,50 € l'amende, vous ne l'aurez pas volé si vous fraudez.
C'est du matraquage.
Et en plus, c'est faux, parce que l'amende est à 32,50, quelque chose comme ça. C'est une fois que tu n'as pas payé les frais de dossier.
C'est faux, c'est surtout vulgaire.
Oui, c'est vrai.
C'est surtout démagogique et c'est insultant, en fait.
Ouais, c'est insultant.
Voilà, je crois qu'il faut quand même le dire avec clarté, ce genre de choses, quoi. J'ai jamais vu des trucs comme ça. Il y a longtemps que j'ai pas vu ça. Enfin, j'ai jamais vu ça. Une insulte pareille, une placard comme ça qui s'adresse aux gens. Je trouve ça vraiment... démagogique, je ne sais pas trop comment dire autrement.
Parce que la grande majorité des fraudeurs ne payent pas le métro, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, tout simplement.
Oui, et...
Donc c'est honteux de dire ça, de dire vous allez payer encore plus cher alors que vous n'avez déjà pas les moyens de le payer. C'est
sûr, en fait, qu'on ne parle jamais dans ces termes-là, par exemple de la fraude des patrons.
L'optimisation fiscale.
Oui, plutôt de l'optimisation fiscale. Voilà, on parle dans ces termes-là.
Justement, un économiste parmi nous.
D'ailleurs, quand on parle de la mutuelle des fraudeurs, c'était... c'est vrai que parfois, les gens aussi, ils sont peut-être un peu surpris par ce terme fraudeur. Un peu... Parce que c'est vrai que ça... Derrière, il y a quand même c'est vrai, il y a un sentiment négatif, comme quoi on vole un... Oui, on nous avait même dit pendant le procès qu'on fait un vol de service public, alors que service public devrait être surtout quelque chose dont on fait usage et qu'on ne peut pas voler, je pense. Mais
les fraudeurs sont dans la désobéissance civile.
On peut dire plutôt la réquisition. Mmh. Voilà. Réquisition d'un bien.
Alors,
je veux dire un mot quand même, parce que là, on a reçu notre dernière émission, on a reçu Xavier Spire qui nous disait précisément que en France, on sait que la fraude fiscale, donc l'optimisation, c'est 60-80 milliards d'euros par an, et que l'impunité est quasi totale. Est quasi totale. Il n'y a pas de poursuite. Et quand il y a une poursuite, généralement, ça s'arrête à la poursuite. On dit, monsieur, rendez un peu d'argent, ben voilà, et puis c'est terminé. Quand ça va jusque-là, ce qui est extrêmement rare.
Oui, alors il faut peut-être redire un peu pourquoi la gratuité des transports pour nous, pour la mutualité des fraudeurs, mais aussi pour nous dans le collectif, c'est quelque chose de possible. Ce n'est pas seulement un vœu qu'on fait, mais. C'est tout à fait réalisable.
Bah, c'est une question de coût, hein, tout simplement. Les transports sont déjà financés à plus de 75% par les subventions publiques. Donc les 25%, servent aussi en grande partie à payer le salaire des contrôleurs, la billettique, la communication qui te dit que tu dois payer. Donc c'est un peu. Et les profits surtout des personnes. Keolis Transpol est une. Bah, Keolis, surtout, est une multinationale qui fait des profits. Mmh. Il faut le rappeler.
Oui.
Il y a même des filiales jusqu'en Australie.
Oui, ils sont partout dans le monde. Ils gèrent le transport énorme, partout. Hein. C'est la SNCF en partie. Hein. C'est une filiale de la SNCF.
Oui, d'ailleurs, c'est une question qu'on devrait se poser un peu parce que la SNCF, d'abord, elle devrait peut-être un peu s'occuper d'elle, d'un primo, voir la chanson de la gêne occasionnée avec la parisienne libérée tout à l'heure, mais aussi s'occupe de Blablacar, va gérer des bus. On se demande vraiment où est le service public, là. C'est vraiment un véritable problème aujourd'hui. Mmh. Monique.
Oui, alors, sur la gratuité, ce qu'on entend aussi, c'est difficile pour une communauté urbaine comme la nôtre, qui fait plus d'un million d'habitants. Et c'est vrai que les exemples, il y a une trentaine de villes en France qui sont passées à la gratuité, soit partielle, soit complète. Des transports, il y en a encore une trentaine en Europe, et puis il y en a aussi sur le continent américain, au Canada, au Brésil et aux États-Unis. Mais la métropole lilloise serait la première aussi grosse. Est-ce que c'est un handicap ou au contraire un atout pour passer à la gratuité ?
En tout cas, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre ville ? Comment on veut vivre en fait dans cette société ? Est-ce qu'on veut dire que voilà, le transport peut être utilisé que par des gens qui en ont moyen ? Ou est-ce qu'on réfléchit dans les termes que le transport est un besoin ? Donc tout le monde doit pouvoir en bénéficier. Voilà, tout simplement. En fait, parce que bon, on peut parler des coûts et de transport en commun, mais on se pose jamais des questions par rapport à des voitures qui représentent, par exemple, un énorme coût pour la ville, pour la société tout en entier. Alors ça, on n'en parle jamais, mais par contre, les transports en commun, oui, ça, il faut payer. Pourquoi ?
La ville a largement les moyens, la communauté urbaine a largement les moyens.
Oui, tout
un
chouïa
d'augmentation d'impôts locaux, un chouïa d'augmentation de cotisations sociales, comme ça se passe dans les autres villes en l'occurrence.
Même pas faire payer les entreprises, tout simplement.
Oui, et faire payer aussi ceux qui profitent aussi de transport en commun. Si on se pose aussi un peu la question comment le réseau il est allé et où il va, c'est que sur. Tout à côté des stations de métro, il y a quoi aussi ? Il y a des commerces,
il y a des énormes centres commerciaux, voilà. Ça permet aux gens d'aller travailler, c'est le travail, quoi. C'est l'entreprise.
Autrement dit, vous seriez partisan en tout cas d'une étude qui soit un peu plus fouillée que ce qu'on a actuellement sur les transports en commun. Ça me semble vraiment très utile parce que, comme dit Sandrine, il y a un besoin manifestement et que ce besoin n'est pas satisfait aujourd'hui pour l'ensemble de la population.
De toute façon, je crois qu'il y a un exemple, comme on avait parlé, mais qui a été mis en place, je crois, depuis longtemps, c'est la ville de Reims, où les transports en commun sont gratuits et financés par les impôts locaux.
Oui. C'est plutôt au Bagne.
Il y a Aubagne aussi. Mais on m'avait dit que Reims s'était mis en place depuis longtemps. Je ne sais pas si l'information.
Il y a un autre exemple aussi près de chez nous, c'est Dunkerque, qui nous donne une belle leçon de démocratie, il me semble, parce que le projet qui est en train de se mettre en place aujourd'hui, c'est la gratuité partielle. Et en 2017, il devrait passer à la gratuité totale. Mais il y a un véritable débat. Et c'est ce qui manque ici. On a l'impression que les élus pour qui on a voté, enfin qu'on a mis en place aux élections municipales, maintenant font leur cuisine entre eux et veulent surtout pas être emmerdés.
Ce conseil communal.
Alors la coordination.
Oui, la coordination.
C'est aussi à l'initiative des fraudeurs que cette coordination s'est créée.
Bah, c'est surtout quand on a vu qu'ils allaient mettre fin à la gratuité pour les plus pauvres.
Mmh. Oui.
On s'est dit. Ouais.
Parce que justement, en fait, ce qui nous a encore plus poussé
dans ce sens-là,
c'est que cette gratuité des transports pour les précaires a été aussi une lutte et que. Que cette gratuité était obtenue par la lutte, aussi par le mouvement de chômeurs précaires. On trouve déjà, même si nous on est pour la gratuité des transports.
Pour tous, oui.
Pour tous et toutes, mais on se disait qu'on va quand même réunir des gens qui veulent lutter avec nous pour au moins d'abord. Faire barrage à ce premier hausse de tarifs et après tous ensemble vraiment demander la gratuité de transport sur la métropole.
Alors pour l'instant il y a 8 mouvements qui composent cette coordination. C'est une coordination, ça veut dire que chacun, alors je veux dire on parce que ATTAC fait partie de cette coordination, ATTAC Métropole, donc Lille, Villeneuve d'Ascq et Roubaix-Tourcoing, les trois groupes locaux. Et ATTAC s'engage aussi, engage ses propres moyens dans ce combat. D'autres mouvements, il y a les mouvements politiques, il y a Ensemble, qui fait partie du Front de Gauche, il y a des syndicats. Aujourd'hui, on a les retraités sud, enfin l'Union solidaire retraités, l'Union des étudiants communistes. Il faut quand même dire, rappeler que les jeunesses communistes, le Parti communiste, est engagé aussi sur ce combat depuis très longtemps. Bien sûr, la mutuelle des fraudeurs et un petit mouvement qui est tout récent sur Lille, qui s'appelle Podemos Lille et qui essaye de réveiller les habitants de la région, de la communauté urbaine. Il faut dire tout de suite que mardi, nous faisons une conférence de presse, donc c'est le 19 janvier à 15h à la Mresse, et que tout le monde sera accueilli. On attend la presse, évidemment, puisque c'est une conférence de presse. Mais tous ceux qui voudraient nous soutenir et venir soutenir la coordination, venir adhérer, sont bien sûr les bienvenus. Ça sera l'occasion de discuter. Peut-être rappeler le contact, tout de suite on le redira. Le contact mail pour tous ceux qui voudraient rejoindre la coordination. C'est Cohorde Transport Gratuit Lille, alors Cohorde pour coordination.
Hein, ça s'arrête. Transport Gratuit Lille, tout attaché, @riseup.net.
Transport gratuit au singulier.
C'est ça.
Lille. On le redira. Donc une conférence de presse, c'est la première action, enfin c'est le lancement officiel de la coordination. On va s'adresser également au monde associatif, on lance la charte. Que dit la charte? Elle dit globalement qu'il faut s'engager sur l'objectif principal qui est la gratuité des transports, même si la charte c'était le moyen le plus souple de rassembler des particuliers et des groupes, des mouvements autour de principes partagés. Ce qu'il faut retenir de cette charte, c'est ça, c'est l'objectif de la gratuité, même si on réclamera, avant d'arriver à la gratuité, l'interruption de la hausse des tarifs et le retour à la gratuité pour les plus précaires. Ça peut être un objectif à court terme, mais notre objectif, c'est la gratuité. Et puis, également, la solidarité avec ceux qui, comme la Mutuelle des fraudeurs, pourraient être inquiétés et traînés en justice parce qu'ils défendent la gratuité, pour cette raison-là. Donc, il faut annoncer également, en février, on n'a pas encore la date, mais oui, à Espace Marx, il y aura un débat sur la gratuité des transports, où très probablement des élus de Dunkerque viendront parler, et puis les membres de la coordination, évidemment. Donc c'est Espace Marx, et l'information sera donnée sur...
sur Radio Campus, de toute façon, on le mettra sur Démosphère, Florence s'occupera de Démosphère, bien entendu. Et alors ce sera d'autant plus intéressant que l'invité, dont j'ai oublié le nom, est en train de monter en Lituanie, pour la capitale de la Mutuelle, le transport en commun gratuit. Donc il parlera d'une expérience en cours. Il a lui-même, c'est lui qui a commencé au bagne d'ailleurs.
Ensuite, parmi les actions qui vont se mettre en place par la coordination, il faut citer un grand rassemblement.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et puis on s'était dit aussi de recueillir le maximum de paroles de gens qui subissent... qui subissent la politique économique de Transpol, que ce soit des harcèlements par les contrôleurs, des amendes hallucinantes alors qu'il n'y en avait pas besoin, des gens qui avant ne payaient pas et qui se retrouvent à payer des abonnements. Raconter tout ça pour essayer de recueillir le maximum de témoignages de gens différents. Ça, c'était une des actions qu'on s'était fait.
Une des actions. Donc il y aura, je pense, des actions de rue, dans la rue, et après... l'information.
De l'information, voilà. Et on interpellera également les élus parce qu'il me semble qu'ils ont des comptes à nous rendre.
Voilà, merci. Rien d'autre à dire. Merci pour cet éclairage, Sandrine et Rémi.
On avait
vraiment envie de vous entendre, d'autant plus qu'effectivement, on avait aussi un intérêt direct, puisque Attac est présent dans cette coordination. Mais c'est vous d'abord que nous voulions entendre, parce qu'il y a une persécution absolument inacceptable de la part de l'État, tout simplement, contre quelque chose qui n'est pas seulement sympathique, mais qui est aussi utile à la société, comme l'a rappelé Sandrine tout à l'heure. Tout ça baigne dans l'idée qu'il faut éviter la pollution, éviter utiliser les transports en commun, c'est ça aussi. Bien, on va passer à un air de musique. Florent, c'est parti.
Moi dans les transports en commun, je suis tout seul, c'est trop bien. Je suis à l'aise, faut pas m'emmerder, assis les jambes grandes. Mazika donf dans les oreilles. Je trimballerai un mur d'enceinte, ce serait pareil. Et tous ces gens qui s'entassent debout, allez crétins, que je contemple fatigués depuis mon strapontin. Moi dans les transports en commun, je suis tout seul, c'est trop bien. Je cours afin de choper la meilleure place. Tu es enceinte, ouais, c'est ça, connasse. Tiens, c'est bizarre, il y a des gens qui veulent monter et puis un petit peu qui descend. Moi bien calé devant les portes, je ne bouge pas mon cul, car le progrès ne vaut que si l'on me passe dessus. Moi dans les transports en commun, je suis tout seul, c'est trop bien. À me rogner les ongles sous ton nez, les pompes sur la banquette opposée. J'allume une clope sur le quai, c'est rigolo, juste au-dessous de l'interdiction sur l'écriteau. Et puis monsieur, si j'occupe deux sièges, vous voyez, c'est pas de ma faute, c'est que mon sac à main a mal aux pieds. Moi dans les transports en commun, je suis tout seul, c'est trop bien. Au moindre pépin, il faut que je râle. J'attends depuis deux secondes, c'est pas normal. Trafic interrompu à cause d'un suicidé. Putain, il va me foutre en retard au ciné. Je peux pas saquer les contrôleurs, ça me fout en rage. Tout comme les grévistes qui nous prennent en otage. Dans mon transport individuel, je suis plus zen, plus fraternel. Et que je te double en te faisant un doigt, tu vas la pousser ta charrette. Gros tas, priorité, sens interdit, feu tricolore. C'est de la déco, c'est du clinquant, c'est du folklore. Ok, j'ai beau me jouer des règles, mais je suis prudent. Ce sont les autres qui me font peur en les respectant. Dans les transports, ça roule pour moi. Je suis tout seul, je suis le roi. Dans les transports, je mérite très bien un bon coup de pied dans l'arrière-train. Tchou tchou.
Voilà, très bon choix de Florent pour quelqu'un qu'on connaît bien à Radio Campus. C'est Frédéric Fromet dans les transports en commun. Vous avez été gâté, madame, monsieur de la Mutuelle, puisque les deux chansons sur les transports et deux chansons assez drôles, ma foi. Eh bien, on va passer au coup de gueule. Et ben, c'est moi qui ouvre le feu. J'avais dit dans une chronique précédente que Valls était de ceux qui osent tout et que c'était même à ça qu'on les reconnaissait, mais je n'avais pas oublié de dire qu'il était teigneux. Voilà-t-il pas qu'il veut réformer la justice en permettant aux magistrats du parquet, au ministère public, d'instruire. C'est passé presque inaperçu et ça me scandalise d'autant plus. Faut-il rappeler Nicolas Sarkozy, un teigneux également, dont Valls s'inspire tous les jours, avait décidé de supprimer les juges d'instruction. Tollé, évidemment, la gauche vend debout derrière le syndicat de la magistrature, et maintenant la gauche, je ne sais pas où elle est. J'ajoute qu'en France, la répartition des rôles dans la justice est sa suivante. 1. Le juge d'instruction ne prend pas parti, il juge à charge et à décharge les justiciables. 2. Le ministère public, le parquet, c'est-à-dire les procureurs et les avocats généraux, bien sûr, ne rendent pas la justice, ils réclament la justice. Dit autrement, ils sont chargés de défendre la société et les citoyens, pour parler républicain. 3. Enfin, le chef du parquet, c'est le procureur de la République. Et le parquet dépend de qui? Il est même aux ordres du ministère de la Justice, justement. Tous ces rappels de cours d'instruction civique élémentaire pour dire que ce type de loi, tout bien pesé, permet aux politiques qui gouverne de juger, c'est nouveau, ça tue assez bien notre système judiciaire qui est déjà pas en très bonne forme. Alors qu'il était question à une époque de séparer le pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire, Valls, qui comprend tout, tente de les lier organiquement. Évidemment, quelques magistrats en ont profité pour revendiquer plus d'indépendance pour le parquet. Les naïfs comprennent pas grand-chose, cela. Valls n'aime que les gens aux ordres, demandés à Taubira. Résumons notre valse. L'argument de la guerre civile, c'était la semaine passée dont j'en parlais. Le mois passé. L'état d'urgence. La perte de la binationalité avec en prime, laisse tomber Taubira, je m'en occupe. Et cette toute dernière idée totalement inique, il n'y a pas, une partie du terrain est dégagée par la droite, pour lui en fait, et même l'extrême droite. D'ailleurs, on n'entend pas parler la mère Le Pen en ce moment. Il y a bien une raison. René, c'est à toi.
Bien, et bien moi je vais vous parler d'un ordre juste. Alors pour les néolibéraux, un ordre juste, c'est la soumission à une distribution régie par le marché, que personne n'a voulu et ne doit contester. À chacun de jouer le jeu avec les moyens dont il dispose. C'est aussi pourquoi les syndicats doivent être réduits dans leur puissance de nuisance et la gauche dans son ensemble contrainte d'accepter l'ordre du marché. Eh bien, avec Hollande et Valls, l'ordre juste, nous y sommes. 8 syndicalistes de Goodyear condamnés à 2 ans de prison, dont 9 mois ferme, pour avoir rempli leur rôle. Se battre pour sauver les emplois et le développement économique et social de leur territoire. Rétablir des liens sociaux trop souvent rompus par des espoirs. Dénoncer les stratégies des actionnaires, affairistes et liquidateurs. Certes, il y a les DRH séquestrés. Mais ils avaient retiré leur plainte et la direction de l'usine avait fait le choix de l'apaisement. On l'a bien compris, sous prétexte de mettre fin aux violences dans les conflits sociaux, l'ordre juste, par cette attaque frontale, veut imposer coûte que coûte ses objectifs, la criminalisation du mouvement syndical et du mouvement social en général. Bien entendu, cet ordre juste se montre nettement plus complaisant envers la violence des entreprises, de la finance, des riches et des puissants. Comme pour rappel, l'ultra-violence des riches, pour reprendre une expression de Michel et Monique Pinson-Charlot, qui jette les salariés sur le pavé, désertifie des régions entières, détruit des sociétés. Il est vrai que ceux-là, les riches bien sûr, jouent le jeu et ne contestent pas l'ordre du marché. Bah tiens, il leur est si profitable. Ainsi, quand les entreprises séquestrent des salariés, si ça arrive, en cas de soupçon de vol ou de visite imprévue de l'inspection du travail pour non-comptabilisation d'heures supplémentaires, par exemple, comme dans ce supermarché Leclerc de Montbéliard, les peines se limitent à des amendes, bon, qui peuvent toutefois être lourdes, mais quand même, c'est 2 poids 2 mesures. Enfin, un ordre juste, puisque les néolibéraux vous le disent.
Merci René. Florent.
Oui, alors, moi je voulais parler d'une déclaration de Ségolène Royal pendant la COP21. Donc elle a dit « Il y aura toujours une demande de la voiture individuelle. Des populations qui se déplacent auparavant en vélo souhaitent désormais accéder à ce type de véhicule. Il faut développer une voiture propre, populaire, accessible à tous pour désengorger nos villes des transports polluants. » Donc si on la comprend bien, les cyclistes qui utilisent le vélo pour se déplacer rêvent qu'à une chose, en pédalant sur leurs deux roues, acquérir une voiture. Mais comme c'est des gens qui ont une conscience écologique, il faut qu'elle soit électrique. La ministre de l'écologie n'a pas pensé que ça peut être un vrai plaisir de se déplacer en vélo, qu'en ville on peut aller plus vite qu'en voiture, que la voiture même électrique ça prend beaucoup de place, ça roule trop vite en ville. Quand bien même, l'avantage du vélo c'est qu'il ne consomme pas d'énergie extérieure. Comment produire l'électricité des voitures électriques? Le nucléaire et les batteries, c'est pas si écologique que ça. En plus, le vélo, c'est déjà très accessible, ça coûte pas cher. Encore à la campagne, on est obligé d'utiliser une voiture électrique, ça serait moins pire, mais je connais pas beaucoup d'habitants de la campagne utiliser un vélo pour faire 20 km et accéder à une grande zone commerciale uniquement destinée à la voiture. Donc non, les cyclistes peuvent se demander s'ils devraient marcher à pied ou prendre le bus ou le métro, le transport en commun. Mais il se pose rarement la question de prendre la voiture électrique. Ah mais j'ai oublié, la construction de voitures électriques, c'est des emplois, c'est de la croissance, on comprend mieux son discours. Travailler pour payer sa voiture pour aller travailler.
Oui, évidemment. C'est exactement ça. Merci Florent. C'est absolument incroyable, c'est des genres de déclarations à la porte-pièce de Ségolène Royal. On a du mal à y croire. On avait d'autres coups de gueule, mais on ne les dira pas parce qu'on se réserve. Moi, j'avais un coup de gueule particulier sur cette décision d'un certain nombre de personnes à gauche qui veulent faire des primaires pour les élections. Enfin, c'est le degré zéro de la politique. Je ne sais pas dire autrement. Jouer comme ça, présenter plusieurs personnes qui vont chacun faire leur numéro. Pourtant, on avait donné. Et puis, c'est quand même curieux. Valls était le plus mauvais candidat des primaires et c'est lui qui est Premier ministre. Enfin, bref. Florent, je te repasse la parole.
Oui, pour l'agenda militant. Donc un rassemblement de soutien aux menacés d'expulsion de Notre-Dame-des-Landes à Lille a lieu à Saint-Maurice-Pellevoisin, c'est cet après-midi à 14h30. Donc c'est suite à l'audience au tribunal où 11 familles et 4 paysans historiques le 13 janvier et aux interpellations qui ont eu lieu suite à ces manifestations de soutien à Nantes. Donc le comité ZAD de Lille appelle un rassemblement action. Donc rendez-vous en face l'îlot Pépinière, place Désiré Boucher, située sur la rue du Faubourg de Roubaix. Donc cet après-midi à 14h30. À Lille comme ailleurs, la culture sert de prétexte à la municipalité pour dégager les pauvres. Pour faire face à cet autre bulldozer qui est cette fois culturel, comment se défendre? Comment lutter? Et dans le cadre d'une exposition collective intitulée « Habitants dégagent Lille 3000 aménage » du 12 au 19 janvier au cinéma associatif L'Univers à Lille-Moulin, demain, dès 15h, un atelier de réappropriation de l'espace urbain, des discussions-débats balayant les nombreux sujets qu'englobe cette problématique, ainsi qu'une projection de court-métrage viendront ponctuer cet après-midi de rencontres et de réflexions. Jeudi 21 janvier à 18h30, action anti-pub des déboulonneurs, parce que l'omniprésence de la publicité est un danger de médias, parce que l'espace public est à tout le monde et non à quelques afficheurs, des citoyens vont rentrer en désobéissance civile, de façon symbolique et non violente et assumée. Ils vont assainir l'espace public, barbouillage, enrubonnage des panneaux publicitaires. Rendez-vous ce jeudi à 18h30 devant le Pôle d'Air, le nouveau café des initiatives citoyennes et solidaires au 250 rue Salengro à LM. Donc venir si possible à vélo car l'action aura lieu vers l'Île-Fibre. Donc suite à une belle soirée politique qui s'est tenue en décembre au LAG, hein, qui est le lieu autogéré de Liévin, elle a décidé de mettre en place une fois par mois ce qu'ils appellent l'Athénée du Lag. Il s'agit d'échanges, de discussions, de lectures et de débats concernant la situation politique, les tentatives pour sortir de la crise, les perspectives politiques et les moyens de les mettre en œuvre. La première session de l'Athénée se propose d'aborder les différentes approches de la montée de l'extrême droite. Et donc rendez-vous samedi prochain à 10h au Lag, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Et ce même samedi, 23 janvier, À 16h aura lieu, à la bocunerie occupée L'Insoumise, 10 rue d'Arras, la projection du film de Daniel Mermet et Olivier Azam, Howard Zinn, une histoire populaire américaine, qui est une adaptation d'une histoire populaire des États-Unis, d'Howard Zinn, et ce manuel...
Ouais. Je voudrais juste dire quelque chose, ça va être annulé à L'Insoumise, parce qu'en même temps, il y aura une manifestation à Calais, qui partira de la jungle et qui va aller jusqu'au centre-ville de Calais. Donc, suite à ce mouvement, ça sera annulé.
D'accord. Bah, merci.
On invite
pour
tout le monde à venir à Calais, d'ailleurs. Et ça va être reporté la semaine d'après.
Voilà, c'est en direct live, intervention de Rémi.
Ok, très bien, merci. Donc, on va continuer l'agenda. Donc, une projection également qui s'appelle « Merci Patron », un film de François Ruffin et du journal Fakir. Donc ça sera le 25 janvier à 19h30 au Métropole. Et donc le sujet, c'est comment obtenir de Bernard A., grand patron, des explications sur les licenciements dans une entreprise lui appartenant. Une projection débat qui est organisée par Fakir et la société Louise Michel de Lille. Et pour finir, le dimanche 7 février à 15h, projection de Cowspiracy, bouleversé par le film An Uncovenant Truth de Al Gore, Kip Anderson, réalisateur, décide de changer son comportement, prendre des douches plutôt que des bains, mettre des ampoules, économiser des vernis, se déplacer à vélo. Mais il se demande, est-ce suffisant? Un rapport de la FAO sur l'impact environnemental de l'élevage provoque en lui un électrochoc. Et on sait maintenant qu'entre 10 et 20% des émissions de gaz à effet de serre, selon les facteurs pris en compte, sont dus à l'élevage animal, soit autant que tous les transports réunis. Élevage animal qu'on ne sait pas nécessaire. Sujet qu'on en parle peu souvent quand on souhaite réduire notre empreinte écologique. Donc vous pouvez retrouver tous ces rendez-vous et bien d'autres sur lille.demosphère.eu. Merci, on se retrouve le mois prochain.
La Parisienne libérée qu'on aime bien, ça s'appelle la gêne occasionnée.
Nous vous informons que le prix des billets ne va pas cesser d'augmenter. Nous vous prévenons que de nombreux guichets resteront désormais fermés. Nous vous informons que l'entretien des voies est soumis à des aléas. Nous vous prévenons que les accidents seront de plus en plus fréquents. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée, la gêne occasionnée. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée. Nous vous informons que nos trains de nuit roulent depuis des décennies. Nous vous prévenons que nous travaillons activement à leur suppression. Nous vous informons que des grilles vont tomber sur les gares abandonnées. Nous vous prévenons qu'à partir d'aujourd'hui, cet arrêt n'est plus desservi. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée, la gêne occasionnée. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée. Nous vous informons que nous avons plan B pour promouvoir nos TGV. Nous vous prévenons qu'une dette s'est glissée sous les rails du réseau ferré. Nous vous informons que les déficits ont tendance à rester publics. Mais les activités juteuses et bien cotées seront bientôt privatisées. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée, la gêne occasionnée. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée. Nous vous informons que tous nos agents doivent subir un stress permanent. Nous vous prévenons que notre management est d'un genre ultra-violent. Nous vous informons avec une joie immense que la libre concurrence nous aidera bientôt à mater les cheminots et à faire fi des droits sociaux qui nuisent à vos voyages et vous prennent en otage. Là nous sommes désolés, oui vraiment désolés. qui nuisent à vos voyages et vous prennent en otage. Nous vous informons que vous êtes seul en gare. Débrouillez-vous, revenez plus tard. La voix que vous entendez est préenregistrée. Son message ne peut plus changer. Nous vous informons que nos prix varient comme le soleil et la pluie. Nous nous efforçons du mieux que nous pouvons de vous faire préférer l'avion. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés pour la gêne occasionnée, la gêne occasionnée. Cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus désolés.
René, ça va être à toi.
Oui. Alors, eh bien, je vais vous parler des activités d'attaque, comme d'habitude. Tout d'abord, au plan national, un petit retour sur la COP21 pour vous faire connaître les conclusions de Geneviève Azam, qui est économiste, membre du Conseil scientifique et porte-parole d'Attaque France. La COP21 a été bien organisée, ce qui relève d'un certain génie diplomatique. Cela ne veut pas dire que les grands enjeux politiques y ont été traités. C'est la première COP qui semble à ce point neutralisée. Les rapports de force ne se sont pas exprimés. Il me semble, c'est Geneviève Azam qui parle, il me semble que les négociations climatiques glissent du multilatéralisme vers des accords bilatéraux. Toute la négociation a été soumise à l'agenda des États-Unis et cet accord est en train de faire disparaître toute possibilité de réglementation politique. Il confie aux marchés et aux technologies le soin de résoudre le problème climatique. De ce fait, il fait des entreprises et de l'économie verte les acteurs centraux de la lutte contre le réchauffement. La campagne contre le TAFTA et le CETA, donc les fameux traités de libre-échange. ATTAC va s'impliquer cette année dans l'animation d'une grande campagne d'éducation populaire et de mobilisation en France, en Europe et avec nos partenaires nord-américains. Dans cet objectif vient d'être lancée une souscription campagne TAFTA. Sur le site d'ATTAC France, on peut également trouver une rétrospective des actions et manifestations menées en 2015. Notre-Dame-des-Landes, les 9 et 16 janvier, des actions de solidarité contre les expulsions ont eu lieu. Elles étaient bien sûr organisées par le collectif dont fait partie ATTAC. En effet, le gouvernement ne respecte pas les accords selon lesquels ni les travaux de l'aéroport ni les expulsions ne commenceraient avant l'épuisement de tout recours juridique. Les habitants et paysans dits historiques, qui étaient propriétaires ou locataires avant la déclaration d'utilité publique, ont été assignés en référé expulsion le 10 décembre, avec pour contrainte une astreinte financière de 200 à 1000 euros par jour et mise sous séquestre des biens et des cheptels. Aux dernières nouvelles, la justice renvoie au 25 janvier sa décision sur les procédures d'expulsion des habitants historiques. La mobilisation des anti-aéroports grossit, le gouvernement semble tétanisé. Une information de dernière minute à propos de l'opération Tout et Toute Faucheur de Chaises. Le président d'ATTAC Haute-Pyrénées, donc 65, et une adhérente ont été convoqués au commissariat de Tarbes mercredi 13 janvier au matin. Ils ont été entendus pendant 1h30 puis relâchés. En conséquence, le comité local prévoit une restitution publique des chaises, non pas à BNP Paribas où elles avaient été réquisitionnées, mais au directeur du Trésor public, le jeudi 28 janvier. Et pour l'occasion, une lettre ouverte lui sera adressée et les citoyens et la presse seront invités. Au plan local maintenant. Tout d'abord, une réunion de coordination pour le transport gratuit sur la métropole lilloise, a eu lieu le mardi 9 janvier à l'Insoumise, donc rue d'Arras à Lille. Un débat des amis du monde diplomatique sur les traités de libre-échange, des conséquences sociales et écologiques sans précédent. Ce sera le lundi 25 janvier de 20h à 23h à la Rose des Vents, donc boulevard Van Gogh à Villeneuve-d'Ascq, avec intervention de Jean Gadret et de Maxime Combes, économiste et membre du conseil scientifique d'ATTAC. Ensuite, débat pour comment penser une prospérité sans croissance. Ce sera le mardi 26 janvier de 18h à 20h à l'Institut d'études politiques 84 rue de Trévise à Lille.
Et si vous n'avez pas noté, de toute façon, ça fera partie de l'agenda d'Hémosphère de Florent tout à l'heure.
Voilà. Donc avec là aussi intervention de Jean Gadret. Un ciné-débat, devise trompeuse sur le thème de la monnaie, animé encore par Jean Gadret. Ce sera le mercredi 27 janvier de 20h à 23h au cinéma Le Méliès, donc ici au Triolo, du moins ici à côté, à Villeneuve-d'Ascq.
Si j'ai compris, ça devait être avec Bernard Liétard, qui est une sommité en Belgique de la monnaie, puisqu'il a été dans la Banque centrale belge en fait, à un moment.
Ah. Enfin, le Attaque Roubaix-Tourcoing propose un World Café sur les traités de libre-échange, les fameux TAFTA et CETA, le mercredi 27 janvier à la FAL, donc Fédération des associations laïques.
Amicales laïques.
Amicales, pardon. 20 rue de Lille à Roubaix. Et puis les assises d'Attaque France, dont je vous ai parlé au cours de notre dernière émission, les 30 et 31 janvier, ici à Villeneuve-d'Ascq. Alors, concernant le collectif Stop TAFTA, une réunion a eu lieu également le 6 janvier où on a élaboré les projets pour 2016. C'est-à-dire une action, bien sûr, auprès des collectivités locales, de leurs habitants et de leurs élus. Concernant le CETA, une interpellation des eurodéputés et des députés nationaux. Et enfin, prévoyons un événement fort, type manifestation, qui sera organisé dans l'année. Et enfin, le collectif Eau, après avoir suspendu ses activités durant quelques mois, le collectif Eau reprend du service, suite bien sûr au courrier envoyé aux habitants de la métropole que vous avez dû recevoir, qui concerne les nouvelles modalités de la distribution de l'eau. Donc c'est donc désormais Ileo, qui associe Mel et Veolia, qui assurera le service. Dans le courrier étaient présentées de nouvelles tarifications, et c'est ce qui nous a fait réagir. Car après étude du document, il semble bien que, avec l'augmentation de la partie assainissement, désormais séparée de la partie distribution, la part fixe qui devait baisser subirait une augmentation de 65% par rapport aux anciens tarifs des eaux du Nord, où la part fixe était la globale. Le prix du mètre cube passe de 1,20€ à 1,45€, soit 20% d'augmentation. En conséquence, le fameux tarif social, si on le compare au prix des eaux du Nord, n'en est plus vraiment un. Et enfin, il n'est semble-t-il plus question de la progressivité du prix du mètre cube en fonction de la consommation. On est bien loin donc des articles de presse optimistes, comme on a pu le voir dans 20 minutes récemment, et si la facture d'eau baissait vraiment. Bon, il nous faut encore avoir confirmation de nos estimations. Mais si tel est le cas, le collectif compte bien se lancer dans une nouvelle campagne.
Merci René d'être vigilant comme ça avec dans le collectif O sur des questions qui semblent tout à fait éloignées des gens, mais justement c'est tout près,
oui,
c'est leur réalité concrète. Hein. Je rappelle un numéro de la brique spéciale circulée, il n'y a rien à voir, donc spécial transport, où évidemment vous aurez une interview de la mutuelle des fraudeurs Monique pour rappeler, comme on avait dit,
l'adresse mail, le contact, c'est coorde en un seul mot et au singulier, coorde pour coordination, donc C2ORD, transport gratuit Lille, @.net.
Ok, merci.
Radio Campus Lille, 13h.
Tout juste.